Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans les voies de service sur Canal M, mardi 7 août 2018. Me voilà de retour après deux petites semaines d'absence.
Bonjour Louis de Bernis.
Bonjour Jean-Charles Algan, je suis sûr que vous avez veillé sur le fort de manière admirable.
Essayé d'être à la hauteur, mais avec difficulté.
Aucune inquiétude, je suis sûr qu'avec Yves Olivier, que je salue également.
Bonjour.
Tout s'est bien passé.
Oui, merci.
Et si vous voulez bien de moi, eh bien me revoilà prêt pour cette rentrée et prêt pour reprendre ce rythme hebdomadaire avec vous des voies de service. Quels sont les thèmes alors aujourd'hui ?
Alors, dans les thèmes, j'ai une opinion de Marc Séguin et puis un air de champagne à l'île d'Orléans. Oui, nous en avons maintenant au Québec.
Champagne.
Et après, il y aura peut-être des petites brèves par la suite.
Excellent.
Si on a le temps.
De mon côté, on va parler de la Coupe Rogers et d'une joueuse de tennis inspirante. Également de ses vies marquées par les attentats de Québec, donc les attentats contre la mosquée. Mm-hmm. Et enfin, de paradis fiscaux et de la possibilité du fait qu'on y est tous un peu accessibles et actifs, en fait.
Voilà. D'accord, tous impliqués. Alors. Voilà. De mon côté, eh bien, l'actualité ne manque pas d'insolites, même en période de vacances. Nous parlerons d'une dispute familiale autour d'un gros lot, également de chars d'assaut au fond de la mer, et puis de bourses pour aller étudier la magie. Voilà, c'est au menu de ce matin.
Le chien guide, c'est le titre de l'opinion de Marc Séguin, qui est peintre, romancier et cinéaste. Depuis une dizaine de jours, on est une famille d'accueil d'un chien Mira. Mira est un organisme qui aide des enfants autistes, des personnes à mobilité réduite, handicapées ou non-voyantes, en leur fournissant des chiens formés à leurs besoins. C'est aussi un organisme qui change des vies et qui ne fonctionne que grâce à des dons. Le chiot sera socialisé avec nous pendant un an, peut-être plus, avant d'aller aider quelqu'un qui en aura fait la demande. Voilà pour la petite actualité. Dans quelques semaines, quand la poussière sera retombée, je dirai quelques mots sur le débat de l'été. D'ici là, juste ceci, trop c'est comme pas assez, c'est un débat de penseurs. J'espère qu'on saura écouter les artistes à un moment donné. C'est de création et d'art, il me semble qu'il doit être question avant que tout ça ne retombe dans les grands fondements sociaux et les offenses sacrées. Ce n'est pas une révolution. Malheureusement, on est habitué de se faire dire non et de s'ajuster aux pendules. Cette « censure » entre guillemets existe depuis toujours dans les institutions. Parfois, elle est plus visible. Là, elle a rejoint d'autres personnes. On oublie trop l'effet de pendule. C'est du ressac que je voudrais parler. Parce qu'il y en aura un. Faites confiance aux artistes, j'y reviendrai. Je voulais écrire tranquille sur une récolte miracle d'ail cette année, sur des plants de tomates chargés comme des mules, mais dont les fruits ne mûrissent pas. Sur la confiture de griottes, les cantaloups sont aussi fabuleux, les cochons sont toujours en liberté dans la forêt et les tournesols vont bientôt toucher les nuages. Ok, j'exagère un peu, mais c'est pour la suite. J'ignore s'il faut rire ou pleurer. Disons que c'est les vacances et que je me mets ce qui suit dans la catégorie divertissement dramatique. Cette semaine, une personne m'a transmis un lien vidéo d'un monsieur qui travaille pour un syndicat de producteurs agricoles. Je ne dis pas lequel, même si c'est le plus gros et le seul. La personne qui me l'a retransmis a travaillé ou travaille encore à l'UPA. Je dis ça pour brouiller les pistes et pour lui éviter des problèmes, tout comme d'autres qui travaillent à cet endroit et qui ont un sentiment de honte et d'incrédulité à la suite des propos d'un monsieur haut placé dans l'organigramme dans une sorte de discours. C'était le 31 juillet dernier 2018. Le 21e siècle. Rappelons que ce monsieur est vice-président d'un organisme qui contrôle en grande partie notre système agroalimentaire, c'est pas compliqué. L'Union des producteurs agricoles est une force majeure et puissante dans le monde agroalimentaire québécois. Les mauvaises langues racontent qu'ils sont plus forts que le ministère de l'agriculture. Peu importe, l'UPA fait partie de l'avenir et doit garantir un minimum de bon sens à ce futur. Je veux appeler que je ne suis pas à la solde d'un lobby ni pour ni contre une partie patronale ou syndicale. Je ne fais pas partie d'aucun complot pour détruire le système et d'aucune fédération ni union. Mais quand je vois et j'entends de telles absurdités, il faut les dénoncer. Tout ça nous concerne tous. Il y a quelques années, l'UPA a lancé un grand chantier, l'UPA du futur, dans le but d'améliorer la représentativité de l'organisation aux autres formes de production animale et végétale possibles. Est-ce que les propos du monsieur dans la vidéo sont les conclusions du chantier du futur ? Ils payent des cotisations et sont soumis aux inspections et aux règlements du MAPAC. En matière de salubrité et de santé animale, le vice-président brandit encore le risque sanitaire pour faire peur à la population et au ministère. Dans quel but ? Je l'ignore. Peut-être est-ce pour favoriser les méga porcheries et les grands abattoirs. C'est pas clair. Peut-être faut-il aussi se souvenir que ce sont les élevages industriels qui seraient responsables de l'augmentation des risques sanitaires, maladies et infections et de l'emploi douteux des fameux facteurs de croissance, le terme hypocrite pour dire antibiotiques. Sur ce même risque sanitaire, même la science ne lui donne pas raison. On fait bien à toutes les échelles. Et un peu d'histoire nous apprend que l'Europe consomme du fromage de lait cru depuis des millénaires et mange des viandes de pâturage depuis aussi longtemps encore aujourd'hui, sans risque apparent de pandémie. Peut-être est-il bon de rappeler encore que ce monsieur est vice-président d'un monopole syndical, me demande pourquoi l'UPA laisse aller ses propos common, les gars. Je dis les gars parce qu'il n'y en a pas beaucoup de madame dans l'organigramme. En regardant la vidéo, nous sommes maintenant des centaines de milliers, on se dit que quelqu'un devrait le briefer et lui raconter un peu la réalité. Je suis sûr que dans la vraie vie, c'est un bon, gentil monsieur. Mais quand on lui donne du pouvoir, c'est pas clair et ça manque d'intelligence. Si ce n'est pas le patron ou l'employeur, peut-être que sa famille pourrait lui dire où on est rendu. Sa femme, ses enfants, mieux encore, un neveu ou une nièce. Le neveu pourrait lui dire « Mon oncle, Maurice Richard, ne joue plus au hockey depuis un bout. » Et la nièce « Mon oncle, ça va sonner drôle, mais les femmes vont à l'école maintenant et elles ont le droit de voter aux élections. » L'UPA fait partie des solutions d'avenir, je le répète, mais dans les cas comme celui de l'oncle qui a peur des cochons de pâturage, elle entretient le problème et une honte. Parce qu'il y a une véritable malaise à entendre ses propos en 2018, Colin, Marcel, Martin, Charles, Félix, faudrait rassurer les citoyens sur vos intentions, s'il vous plaît. La conscience est ailleurs. Pour preuve, quand le temps d'une paix jouait à la télévision au début des années 80, il y avait aussi une publicité télé d'un grand magasin qui vendait des manteaux de fourrure à Montréal. Un fourreur, que ça s'appelle dans le métier, le slogan, c'était la voix de Réal Giguère, disait « Une femme bien fourrée, c'est une femme bien mise ». Les temps changent, on dirait. Il faudrait ajuster le discours du vice-président avec la réalité. Évitons les blagues faciles avec Tikkun, ça n'aide personne. Ce n'est pas parce que c'est le présent qu'on ne dit pas des trucs rétrogrades. Et vous avez raison, cher monsieur, on n'est plus dans ce temps-là. On est ailleurs et c'est mieux que ce que vous souhaitez bêtement. Tiens, parlant d'avenir et d'idées, j'en ai une. Je regarde le chiot-mira qu'on entraîne pour venir en aide à quelqu'un dans le besoin et je rêve d'élever des porcs au pâturage comme dans le temps d'une paix. Pas pour les manger, mais pour en faire des cochons guides pour les gens sans vision. Je dis ça avec un sourire parce que c'est l'été. C'était l'opinion de Monsieur Marc Séguin.
Parlons de chicane de famille et une de taille, si j'ose dire. Une chicane de famille au sujet d'un gros lot d'un million de dollars.
Oh, ça arrive, ça arrive.
Et même un peu plus d'un million de dollars. Oui, on peut comprendre les raisons. Eh bien, cette chicane est quand même rendue en cour suprême de la Nouvelle-Écosse, puisqu'une femme prétend ne jamais avoir eu l'intention de partager ses gains. Barbara Reddick a poursuivi son neveu, Tyrone Massinis, après que le grand prix de 1,2 million de dollars leur eut laissé chacun 611 319 et 50 sous. Ils ont gagné cette somme lors d'une collecte de fonds de type chasse à l'as organisée sur l'île du Cap Breton. La poursuite a été déposée jeudi à Port Hawkesbury, conjointement à une motion pour une ordonnance de conservation visant à geler les gains du neveu jusqu'à la résolution du litige. Adam Rogers, l'avocat de Madame Reddick, a dit vendredi que les billets avaient été achetés avec l'argent de sa cliente et qu'aucun contrat ou entente n'avait été conclu, même si les deux noms figuraient sur le billet gagnant. Elle a accepté d'ajouter son nom sur le billet pour la chance, a dit Madame Rogers. Cela a clairement été un point de discorde pour certains, mais ça ne constitue pas un contrat. La chasse à l'as a gagné en popularité dans le Canada atlantique ces dernières années. Les régions rurales utilisant cette loterie pour amasser de l'argent pour différentes causes, allant des anciens combattants aux services d'incendie. La controverse entourant la loterie de Margary Forks en Nouvelle-Écosse a attiré l'attention lorsque Barbara Reddick a dit à son neveu de 19 ans qu'elle avait l'intention de le poursuivre en pleine séance de photos entourant la remise du chèque. La scène avait été captée sur vidéo et était devenue, vous en doutez, virale sur Internet. L'audience sur la motion pour une ordonnance de conservation doit être entendue à Port Hawkesbury le 10 août. Dans quelques jours, les dates concernant le fond de la poursuite n'ont pas encore été déterminées. L'avocat de la plaignante espère que le différend soit réglé d'ici l'automne.
Dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Non, ne dis rien et dis rien de plus. Non, ne dis rien de plus. Quand tous les mots de la terre ne valent pas un soupir, c'est qu'il vaut mieux se taire et dire à croire que ta mère t'a rien appris. Y a-t-il des filles que ça touche, ces mots qui sortent de ta bouche comme des perles? Moi je m'en fais des colliers que je jette à la mer et dis non, ne dis rien et dis rien. Amours sont muets, tu aurais dû t'en douter, tu aurais dû la boucler et dire sûr que j'en serais pas là à t'étouffer dans les draps. Mais c'est pas l'heure de regretter ce qui est fait, fait, je ne te l'apprends pas. Laisse ta tête d'enfant rouler sur le matelas et dis
belle découverte musicale de l'année, Clara Luciani, tirée de son album Sainte Victoire. C'était la pièce Eddie.
Merci. Ces vies marquées par l'attentat de Québec. C'est un dossier de Alexandre Duval qui date du 25 janvier 2018. En quelques secondes, tout a basculé. Ils ont perdu un proche, l'usage de leurs jambes ou leur insouciance. Un an après l'attentat qui a fait 6 morts et 5 blessés graves au Centre culturel islamique de Québec, leur vie a repris, mais elle a profondément changé. Ayman Derbali traîne désormais tout le poids du 29 janvier 2017. En voulant s'interposer entre ses amis et le tireur qui a fait irruption dans la grande mosquée de Québec, il a été criblé de balles. Il en a reçu 7, dont une qui a atteint sa moelle épinière et l'a rendu tétraplégique. C'est dans un fauteuil roulant qu'il passera sa deuxième vie, comme il l'appelle. Depuis sa sortie de l'hôpital en juillet dernier, ce père de 3 jeunes enfants vit dans un centre de réadaptation. Il y sera jusqu'à l'été 2018 pour tenter de retrouver un maximum d'autonomie, mais ses capacités demeureront limitées. Ayman revient de loin. Après l'attentat, il a été plongé dans le coma pendant 2 mois. Sa femme a refusé qu'on le débranche, malgré les sombres pronostics. Les médecins lui ont dit que si j'allais survivre, j'allais survivre sans mémoire et sans aucun membre qui bouge. Ils ont dit que je n'accepterais pas de vivre une vie comme ça. Aujourd'hui, sa mémoire est intacte, mais ses bras ne bougent que partiellement. Ayman n'a pas d'équilibre, puisqu'il ne sent plus son tronc. Un exercice aussi simple que frapper un ballon de plage en position assise représente un risque de chute. Après tous les efforts qu'il déploie en physiothérapie, ce consultant en technologie de l'information de 41 ans rêve d'un retour au travail dans la prochaine année avec du matériel informatique adapté. Mais Ayman n'en est pas là. La balle qu'il a reçue dans le bras droit a touché un nerf. Les douleurs, c'est chaque jour, c'est tout le temps. Rien de tout cela ne serait arrivé si à la dernière minute, Ayman n'avait pas décidé de se rendre à la mosquée le soir de l'attentat. Il a tant hésité que lorsqu'il est rentré, la prière était terminée. Le tueur était déjà à l'intérieur du bâtiment. « J'ai ouvert la porte », se remémore Ayman. Il n'a pas réagi. Je suis passé derrière lui, je ne voyais pas son arme. En entrant dans la salle de prière, il a entendu 2 coups de feu. J'ai réalisé que c'était la même personne derrière laquelle j'étais passé. Ayman avait le choix. Il aurait pu rebrousser chemin. Il a plutôt choisi d'aller rejoindre ses confrères pour pouvoir faire quelque chose. Il me regardait de biais. J'entendais les cris du monde et tout ça. En attirant l'attention du tireur, Ayman a reçu une première salve de balles. Il est tombé au sol. Les amis d'Ayman lui ont raconté qu'avant de quitter les lieux, le tueur a déchargé son arme sur lui. Avant qu'il ne perde conscience, quelqu'un l'implorait de ne pas fermer les yeux. « Ayman, reste avec nous », entendait-il. Pour moi, c'était fini. C'est à ce moment-là que j'ai eu un flash de ma petite-fille, se souvient Ayman. Lorsqu'Ayman retourne passer du temps avec sa famille, les fins de semaine, le simple fait de d'enlacer Mariam, sa fillette de 2 ans, prend un nouveau sens. C'est sûr que physiquement, j'aurais de la difficulté à jouer comme avant le rôle de père. C'est d'autant plus vrai que son fils Youssouf, 5 ans, est autiste. Il a constamment besoin d'être surveillé car il ne sait pas reconnaître le danger. Je ne peux pas me décoller de ma chaise. Je dois tout le temps appeler ma femme. Quand Youssouf est à côté de moi, je ne peux pas l'empêcher de faire une gaffe. Il doit faire un autre deuil, celui de ne plus jamais jouer au soccer avec son fils aîné, Ayoub, qui a 9 ans. Lui, il ne veut pas accepter ça, dit-il, les larmes aux yeux. Je lui dis tout le temps, Ayoub, on garde espoir. Peut-être qu'un jour je vais marcher, on va rejouer au soccer. C'est impossible et Ayman le sait bien, mais tout n'est pas perdu. Pour la première fois depuis l'attentat, il s'est rendu à un match de soccer de son fils sans le prévenir en novembre dernier. Je l'appelais depuis les estrades. Ayoub, c'était une surprise pour lui. Je le voyais parler avec le coach, me montrer. Papa, il est là. Il était content et moi aussi. Chaque vendredi, Ayman peut quitter le centre de réadaptation pour retourner à la mosquée. Seul fidèle en fauteuil roulant, ses visites ne passent pas inaperçues. Les hommes affluent pour lui parler, l'embrasser ou le saluer. Même si sa vie a complètement basculé à cet endroit, Ayman jure qu'il n'aurait pas voulu faire les choses différemment. « J'aurais eu honte toute ma vie si j'avais pensé à m'enfuir et laisser les autres », dit-il. Le corps traversé par un immense sanglot. « C'est ce qui me réconforte, d'avoir eu ce courage. » À voir son sourire, personne ne pourrait croire que Saïd Akjour a lui aussi frôlé la mort. Derrière sa voix douce et son air posé, l'homme vit pourtant une certaine angoisse. Lorsqu'il fréquente des lieux publics, c'est plus fort que lui, il s'imagine le pire. Je fais toujours des scénarios par rapport à la sécurité. Je vois s'il y a des failles, je vais voir la porte si elle est fermée, la fenêtre, est-ce qu'elle a un grillage. Saïd a reçu une balle à l'épaule lors de la fusillade. Il se souvient de la froideur du tueur. Il est entré, il n'a rien dit, moi je l'ai comparé à quelqu'un qui joue au PlayStation. Au cœur de la tuerie, sa première pensée a été pour son fils unique. Zaki n'a que 7 ans et il vit lui aussi avec les séquelles de l'attentat même s'il n'était pas présent. Je pense que ça lui est rentré dedans. Il a développé beaucoup de phobies, des peurs, au point où des fois il vérifie si je respire encore. Parfois il se réveille la nuit pour me chercher, raconte Saïd. Selma Ayoui, elle aussi, a développé des réflexes de protection depuis l'attentat. Elle se trouverait ce soir-là, dans la salle de prière des femmes, à l'étage situé au-dessus de celle des hommes, là où s'est produit le carnage. Alors qu'elle était seule, elle a entendu des pas derrière elle. Le bruit venait d'une porte que les femmes n'empruntent jamais, puisqu'elle communique avec l'escalier qui mène à la salle de prière des hommes. Sur le coup, Selma n'a pas pensé qu'il s'agissait d'un intrus. Elle l'a salué. Aujourd'hui, avec le recul, elle en est convaincue. Le tireur est monté à l'étage en passant par l'escalier des hommes, avant de redescendre pour commettre son crime. Il avait sa capuche sur la tête, sa silhouette, c'était sombre, c'était notre fantôme. Quelques instants plus tard, elle a entendu des coups de feu. Sur le téléviseur qui transmet en direct les images de la salle de prière des hommes, elle a tout vu. Selma accepte de raconter ce qu'elle a vécu sans toutefois montrer son visage. Elle a trop peur d'être reconnue. Avant, je pouvais sortir dans la rue le soir. Je n'ai jamais eu peur, mais là, ce n'est plus comme avant, c'est fini. Je sors dehors, je regarde de gauche à droite parce que j'ai comme une peur à l'intérieur. Selma ressent la peur jusqu'à dans ses prières. Depuis l'attentat, elle éteint les lumières du salon pour que les passants ne puissent pas la voir ou elle prie dans une autre pièce.
Un air de champagne à l'île d'Orléans. Bon, ce n'est pas du champagne, mais ça y ressemble beaucoup. Karine Duplessis-Pichet, spécialiste en vin, collaboratrice invitée à la presse. Des bulles très fines issues d'un assemblage de pinot noir, de pinot meunier et de chardonnay. Un vin crémeux au parfum de brioche, de poire mûre et d'épices. Ce mousseux ne vient pas de Champagne, mais de l'île d'Orléans, où la famille Demers a tout mis en œuvre, ingéniosité, patience et argent, pour produire l'un des meilleurs vins effervescents du Québec, bio en plus. Dans la nef de l'église Notre-Dame de Jacques-Cartier, dans le quartier Saint-Roch, à Québec, sommeliers, restaurateurs et spécialistes se sont réunis fin avril dans le cadre d'un salon de vin d'importation privée. Derrière une table, Sébastien Demers y a présenté pour la première fois les vins biologiques de son domaine familial, la seigneurie de Liray à l'île d'Orléans. L'effervescence était à son comble, aussi bien dans la bouteille que chez les dégustateurs. On a planté nos vignes en 2011, mais on a pris notre temps avant de commercialiser nos vins. On voulait que les gens voient ce que la seigneurie de Liray est capable de livrer, tant pour les vins effervescents que pour les vins tranquilles, explique-t-il. La stratégie des Demers a porté ses fruits. Depuis cette première dégustation, le téléphone ne dérougit pas, le carnet de commandes est plein et les curieux prennent rendez-vous au vignoble. Ils veulent découvrir les façons de faire du domaine. Sur les versants nord de l'île d'Orléans, dans la municipalité de Sainte-Famille, les vignes de la seigneurie de Liray regardent le Mont-Sainte-Anne qui se dresse de l'autre côté du fleuve. Entre les rangs, Louise Bédard, la mère de Sébastien, veille aux soins des plantes, de la taille au palissage. « Le pinot meunier, c'est mon chouchou, regarde comme il est beau », dit-elle en faisant le tour du champ. Comment réussissent-ils à cultiver du pinot meunier sur l'île d'Orléans? La question revient souvent sur les réseaux sociaux. La réponse provient de couvertures isolantes créées par les Demers. Car la famille ne produit pas uniquement du vin, elle exploite depuis 1989 une entreprise spécialisée en isolation thermique. Quand on a planté des vignes, c'était clair que nous allions les couvrir, relate Sébastien Demers. Contrairement aux géotextiles conventionnels, nos couvertures ont un facteur R. Elles ne font pas que protéger, elles isolent du froid. Les épaisses couvertures de couleur noire se sont révélées adéquates pour les cépages européens. Aucun plant n'est mort gelé depuis la plantation en 2011. On avait même pensé à installer un chauffage au glycol dans le champ pour apporter de la chaleur aux vignes, ajoute-t-il, mais ça n'a pas été nécessaire. En plus des variétés Vitis vinifera, la famille a planté des hybrides afin de s'assurer d'avoir des raisins si les cépages européens ne tenaient pas le coup. Mais les 10 000 plants, toutes variétés confondues, ont donné des fruits. Le terroir de l'île, avant d'arriver à la seigneurie de Liray, on croise en voiture des vignobles, des producteurs de fraises, de framboises et de camerises. Selon Sébastien Demers, la clé du succès du domaine se trouve d'abord dans le sol, cette terre sablonneuse, anciennement utilisée pour la culture d'asperges, a séduit.
Allez, allez, une petite insolite avant de partir à la pause. Comment attirer les amateurs de plongée sous-marine ? Une ONG au Liban a fait immerger samedi dans la mer Méditerranée 10 chars et véhicules militaires au large de la ville de Saïda, au sud de Beyrouth. À 3 km de la côte, une grue immense montée sur un bateau a déchargé un à un et lâché dans l'eau les chars et véhicules blindés offerts par l'armée libanaise pour la création de ce parc sous-marin. Le projet a été lancé par une ONG locale, les Amis des Côtes de Saïda, en partenariat avec la municipalité, dans l'objectif d'attirer les plongeurs sous-marins et de développer le tourisme. Ce sera un paradis pour les plongeurs et un lieu où va se développer la flore sous-marine, s'enthousiasme un représentant de l'ONG, puisque des algues vont s'installer sur ces véhicules. Petit détail qui ne manque pas de piquant, si l'on peut dire, les chars ont été placés de telle sorte que les canons pointent dans la direction d'Israël en solidarité avec le peuple palestinien, explique ce représentant. Rappelons qu'Israël et le Liban sont toujours techniquement en guerre, l'histoire des deux pays a été marquée par de nombreux conflits, tandis que l'État hébreu avait occupé de 78 à 2000 le sud du pays. Voilà pour ce tourisme particulier.
Amos vous raconte son histoire. C'est les productions du Raccourci en collaboration avec la maison Hector Autier et le club MCH antique de l'Abitibi-Témiscamingue ont présenté la 7e saison d'Amos vous raconte son histoire du 8 au 25 juillet. Le circuit aux balades, c'est une balade aux abords de la rivière Arikana, agrémentée comme par le passé de musique, d'anecdotes et de rencontres qui permettent aux spectateurs d'apprendre une foule de détails sur l'histoire de la fondation de la ville d'Amos. Les personnages réels et imaginaires de la fondation de la ville ont pris encore vie cet été au fil des rues dans la ville. Mais cette année, c'est la toute première saison de Val d'Or vous raconte son histoire. C'est un peu la même troupe qui bouge. Les productions du Raccourci, toujours, ont lancé donc leur toute première saison du circuit historique théâtral Val d'Or vous raconte son histoire du 29 juillet au 15 août, du dimanche au mercredi. En prenant part à un circuit marché de 10 km sillonnant le centre-ville historique de Val d'Or le long de sa mythique 3e avenue et de ses alentours, les spectateurs apprennent une mine de faits plus intéressants les uns que les autres sur cette ville dont l'histoire est peu connue et digne du western le plus invraisemblable. Sur la même formule que le circuit historique d'Amos vous raconte son histoire, le public déambulera dans les rues du centre-ville accompagné de 3 musiciens qui assureront l'ambiance de l'expérience. Les guides prennent en charge les spectateurs et les amènent d'un camp de prospecteurs créé spécialement pour le circuit à une maison de pension en passant par l'église Saint-Sauveur et le manoir Val d'Or pour terminer à une fête de centre d'amitié autochtone. Toutes les informations sur le site Val d'Or vous raconte son histoire. valdorvousraconte.com.
Merci Jean-Charles, passons donc à la pause et nous sommes de retour dans quelques petites minutes. A tout de suite.
Vous écoutez les voix de service.
City, a paradis city. Cours, étranges oranges du teint. Nous sommes les marionnettes du temps qui s'arrête.
Et on a fait un petit détour à Paradise City avec Jean Leloup, oui.
Très bien. Bon, bah alors dans ce cas-ci, on y va avec les paradis fiscaux. Vous aussi, vous en profitez probablement. C'est un dossier de Gaëtan Pouliot, Zach Dubinsky et Valérie Ouellette. Les milliardaires et les grandes entreprises ne sont pas les seuls à profiter des paradis fiscaux. Tous les travailleurs canadiens participent aussi à ce système, possiblement sans le savoir. Les caisses de retraite publiques y ont des investissements, a pu constater Radio-Canada grâce aux Paradise Papers. Les paradis fiscaux ne sont pas uniquement synonymes de villas et de yachts luxueux pour les riches de ce monde. D'importantes sommes d'argent transitent aussi par ces pays au profit des travailleurs. 7 des 8 plus grands gestionnaires de caisses de retraite au Canada ont utilisé des sociétés dans des paradis fiscaux pour investir à l'étranger, démontrent les Paradise Papers, une fuite massive de documents en provenance des paradis fiscaux. Ces caisses de retraite publiques gèrent des centaines de milliards de dollars pour plus de 25 millions de Canadiens. On y trouve quelques-uns des plus importants investisseurs institutionnels au monde, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec. De nombreux investissements ont transité par des sociétés établies aux Bermudes, aux îles Caïmans ou par l'île de Jersey notamment. À titre d'exemple, le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario possédait jusqu'en mai dernier une partie d'un gratte-ciel de 47 étages surnommé la « Râpe à fromage » au cœur de Londres, par l'entreprise d'une société établie à l'île de Jersey. Contactés par CBC, les gestionnaires de fonds de pension affirment respecter les lois fiscales partout où ils font des affaires. Ils soulignent que les fonds de pension sont exemptés d'impôts au Canada. Comme pour les REER, ce sont des travailleurs qui paient les impôts lorsqu'ils touchent leurs prestations une fois à la retraite. L'utilisation de paradis fiscaux n'a donc pas d'incidence sur les coffres du gouvernement fédéral ou ceux des provinces. D'autres pays ont cependant des règles fiscales différentes. Les fonds de pension structurent donc leurs investissements afin de limiter en toute légalité une double imposition de leurs profits. Nous structurons nos investissements à l'étranger pour maximiser les rendements de nos placements après impôt pour nos cotisants et nos bénéficiaires, affirme l'Office d'investissement du régime de pension du Canada, notant être responsable d'un fonds qui doit profiter à plus de 20 millions de Canadiens et qui doit être durable pour plusieurs générations. Investir seulement au Canada aurait de graves conséquences, estime un ancien dirigeant de caisse de retraite. Les temps ont changé, les taux de croissance sont moins importants au Canada qu'ailleurs dans le monde. Il y a 30 ans, lorsque presque tous les investissements des fonds de pension étaient au Canada, ils n'avaient pas à structurer leurs affaires aux Bahamas, explique Jim Leach, PDG du régime de retraite des enseignants de l'Ontario de 2007 à 2013. Cet argument ne fait pas le poids pour l'une des plus importantes voix du mouvement syndical au pays. Le président du Congrès du travail du Canada, Hassan Youssouf, estime que les caisses de retraite ne devraient pas investir dans des paradis fiscaux puisqu'ils sont utilisés pour faire de l'évitement fiscal par les multinationales et les ultra-riches. C'est tout simplement contraire à l'éthique, c'est un affront aux membres qui s'attendent à ce que leur régime de retraite fonctionne de manière éthique, dit-il. Chris Roberts, directeur des politiques sociales et économiques du Canada du Travail du Canada, du Congrès du Travail du Canada, admet pour sa part que le contexte d'investissement a changé. Pour nos membres, il y a probablement des sentiments mitigés à propos des gestes posés par le fonds de pension. Ils doivent se dire « est-ce que ma pension sera là pour moi aussi ?» En avril dernier, la Commission des finances publiques de l'Assemblée nationale déposait un rapport sur les paradis fiscaux après 2 ans de travaux. Elle demandait notamment à la Caisse de dépôt de réduire progressivement ses investissements dans les entreprises qui font de l'évitement fiscal abusif ou de l'évasion fiscale. La Caisse a refusé de s'engager à réduire ses investissements dans les paradis fiscaux en deçà d'une cible précise. Le grand patron de l'institution, Michael Sabia, a dit qu'un plafond de 10% serait idéal, mais que la caisse devait continuer à chercher des transactions qui génèrent un rendement intéressant afin de sécuriser les régimes de retraite des Québécois. La valeur des investissements de la caisse dans les sociétés ayant recours à des paradis fiscaux s'élevait à 26 milliards de dollars en 2016.
va-t-on au Mexique à présent, où, ben, comme dans beaucoup de pays dans le monde, c'est bientôt la rentrée des écoles, des universités. Et je vais vous parler d'un écolier, plutôt d'un universitaire, pas comme les autres. À 12 ans, sa peluche favorite à la main, Carlos Antonio Santamaria, se rendra lundi, s'est rendu en fait hier, à l'Université Nationale Autonome du Mexique, l'UNAM, pour y entamer des études de physique biomédicale, devenant le plus jeune étudiant à intégrer cette prestigieuse université de Mexico. Mon principal objectif est d'apporter les éléments de base pour que médecins et biologistes puissent résoudre nos problèmes biologiques, explique Carlos, devant une forêt de micros et de caméras lors d'une conférence de presse à l'UNAM. Si on arrive à fabriquer une cellule qui se maintient seule, organite par organite, on peut alors soigner toutes les maladies, explique-t-il en arborant un large sourire qui dévoile ses dents de lait récemment tombées. Cet étudiant, doté de hautes capacités cognitives selon l'UNAM, a commencé hier une licence de physique biomédicale. Il n'aime toutefois pas qu'on le qualifie de génie. Il dit qu'il entrera à l'université avec une soif d'apprendre, mais sa mère, impatiente à ses côtés, voudrait surtout qu'il avale son goûter. J'irai en classe avec ma peluche, un puma, mascotte du club de football de cette université, explique Carlos à l'AFP. Même si le football n'est pas sa passion, il soutient l'équipe universitaire. Il préfère toutefois les jeux de construction et les jeux vidéo. Quand il n'est pas plongé dans ses livres d'études, il aime aussi lire des documents de vulgarisation scientifique ou de la littérature classique. L'autre jour, je lisais Don Quichotte et 100 ans de solitude, raconte-t-il, ses lunettes bleues autour du cou. Il rejoindra la trentaine d'étudiants sélectionnés pour ce cursus sur environ 700 postulants. Pour en arriver là, son parcours n'a pas été de tout repos. Si la compagnie des adultes lui est agréable, la relation avec les autres enfants est un peu plus difficile, confie le jeune garçon. Il a subi une ambiance hostile dans les écoles où il est passé avant d'obtenir finalement ses diplômes à l'Institut National d'Éducation pour Adultes. Il a dû passer des examens pour adultes, ce qui n'est pas non plus normal, se plaint son père Fabian. Il faudrait des examens pour enfants, estime-t-il, et il a dû se battre avec l'administration pour qu'il obtienne le droit de passer le baccalauréat. Carlos aimerait que son université accueille un groupe d'enfants comme lui, qu'elle fasse passer un test à tous les enfants qui veulent s'y inscrire. Le prodige estime que le Mexique est dans la tempête, principalement à cause d'un manque d'éducation. Il demande au président élu, Andrés Manuel López Obrador, de ne pas commettre les erreurs de ses prédécesseurs et demande aux députés de penser davantage aux minorités.
Maison témoin de l'histoire, Danielle Bonneau, c'est une femme dans la presse le 4 août 2018. D'une simplicité rudimentaire ou cossue, en briques ou en clin de bois, avec un toit en pente ou un toit plat, les maisons évoluent et ne se ressemblent pas d'un quartier à l'autre. C'est ce que veut mettre en évidence Héritage Montréal dans sa 30e présentation des Architectures. Du 11 août au 7 octobre, l'architecture résidentielle sera donc au cœur des visites guidées organisées dans 8 secteurs très différents de la ville. On veut montrer comment l'habitation s'est modifiée au fil du temps, explique Joëlle Perron-Odeau, coordinatrice des activités éducatives. Une multitude de réalités et d'époques seront représentées. Les visites qui se feront à pied dureront 2 heures, se tiendront dans les secteurs suivants: Vieux-Ville, Faubourg-Saint-Laurent, Petite-Bourgogne, Villeray, Mercier, Notre-Dame-de-Grâce, Milton Park et le Vieux-Saint-Laurent. Selon les endroits, les bâtiments résidentiels emprunteront des formes variées: maisons rurales, bourgeoises du début du XXe siècle, du type shoebox, logements ouvriers, bungalow typique des années 50, duplex, triplex, maison en rangée ou encore anciens immeubles industriels convertis en logements. L'architecture résidentielle fait partie de notre vie et on ne s'y attarde pas, constate Madame Perron-Odeau. Or, plus on y porte attention, plus on est en mesure de l'apprécier et de vouloir la protéger. Tour Kaléidoscope offre aussi la possibilité de découvrir l'histoire de divers quartiers de Montréal en observant plus attentivement les immeubles qui les composent. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, Des guides animeront une quarantaine de circuits dans la ville, débordant dans Westmount et se rendant même jusqu'à Sainte-Rose à Laval. C'est l'occasion d'explorer le Vieux-Montréal, le 1000 carrés, le 1000 carrés doré, Sceaux au Récollet, Notre-Dame-de-Grâce et Côte-des-Neiges, mais aussi la petite Bourgogne, la petite patrie, la petite Italie, le Mile X, le Mile End, Hochelaga, Maisonneuve, Griffintown, etc. Réseau Artist, ça s'écrit A-R-T-H-I-S-T, Artist, qui célèbre son 10e anniversaire, s'emploie de son côté à mettre en lumière le passé de Laval en donnant la parole à des personnages colorés. 3 des 8 virées patrimoniales dans le Vieux Sainte-Rose, le Vieux Saint-Vincent-de-Paul et le Vieux Saint-Martin mettent plus particulièrement l'accent sur le patrimoine bâti. La ville de Laval est issue de la fusion de 14 villes dont l'histoire remonte à 1636, rappelle Sylvie Lemay, directrice générale de l'organisme. D'une grande variété et pouvant, dans certains cas, accueillir des enfants, les visites pédestres sont prévues jusqu'au 12 août.
Un texte de Christine Roger sur Rebecca Marino, joueuse de tennis mais surtout modèle pour les jeunes filles. De retour sur les courts après 5 ans d'absence, Rebecca Marino veut faire parler sa raquette et son talent. Et si en plus elle peut partager son vécu pour faire une différence dans la vie de jeune fille, elle pourra réellement dire mission accomplie. La Canadienne de 27 ans aurait pu choisir de se reposer lundi matin avant son entraînement. Elle venait de connaître un week-end chargé avec 2 matchs de qualification pour la Coupe Rogers, sans parvenir à accéder au tableau principal. Elle s'est présentée tout naturellement au stade IGA à 9h pour échanger avec de jeunes filles sur les thématiques du mouvement Fearless Girl, Fearlessly Girl. Créé par la Canadienne Kate Whitfield, ce mouvement veut interpeller les filles de 11 à 18 ans. L'objectif est de renforcer l'estime de soi et d'offrir un soutien grâce à des discussions de groupe et à des activités. La joueuse américaine Madison Keys est l'une de ses têtes d'affiche. Depuis qu'elle a ouvertement parlé des problèmes de dépression qui l'ont tenue à l'écart de la compétition, Marino reconnaît qu'elle a de nouvelles responsabilités. « Je ne tiens pas à avoir l'étiquette de modèle, mais je veux que les jeunes filles sachent qu'elles ne sont pas seules. Elles peuvent prendre des aspects de ma vie pour s'inspirer et s'aider », mentionne l'ancienne 38e joueuse mondiale. Rebecca Marino en a fait du chemin depuis le tournoi de Memphis en 2013, où elle avait senti qu'elle venait de prendre une pause... qu'elle devait prendre une pause du tennis. Victime d'une sévère dépression, elle a eu besoin de 5 ans, dont une année complète sans même toucher à une raquette, avant de retrouver la piqûre pour son sport. Après s'être longtemps isolée, sans parler de ses difficultés à sa famille et à ses amis, elle est aujourd'hui beaucoup plus à l'aise de discuter de ce qu'elle a vécu. Elle avoue cependant que ce sera toujours un sujet très sensible pour elle. C'est très personnel. D'être devant un large groupe, d'en parler, ça peut être difficile de gérer tout ça, de choisir ce que je veux révéler et ce que je garde dans mon jardin secret, confie-t-elle. Même si cela lui demande parfois un effort colossal, la joueuse tient à partager son histoire pour les jeunes filles. Et surtout pour éviter à quelqu'un d'autre de passer par l'enfer qu'elle a vécu. Et parler d'intimidation, d'images, de médias sociaux, de maladies mentales est devenu une priorité. C'est important que les jeunes filles voient que les athlètes peuvent être vulnérables, de voir que les athlètes sont normales et authentiques, souligne-t-elle. Son défi est de taille. Elle doit se refaire des points au classement de la WTA et passer par les qualifications de plus petits tournois pour espérer gravir les échelons peu à peu et revenir dans l'élite mondiale. Épaulée notamment par Sylvain Bruno et Simon Larose à Montréal, la joueuse a montré depuis son retour qu'elle a toujours ce talent qui lui avait permis d'enregistrer d'excellents résultats en 2011, année où elle a atteint le 38e rang mondial. Depuis janvier, elle a gagné 4 des 5 tournois de l'ITF auxquels elle a participé. Ses performances lors du week-end de qualification à Montréal ont confirmé sa grande forme. Elle a battu la 69e raquette mondiale samedi avant de perdre contre la 53e le lendemain. « J'ai soudainement plus de visibilité, c'est le fun de commencer à être reconnu », dit-elle. « C'est un peu comme ma maison parce que je m'entraîne ici. De pouvoir jouer ici, devant mes entraîneurs, devant ma foule, c'est très spécial. » Marino n'a pas voulu se fixer d'objectif en 2018. Au terme de la saison, selon le résultat qu'elle aura obtenu, elle se promet d'élaborer un plan plus précis. Il y a quelques mois, son entraîneur Sylvain Bruno avait osé affirmer ce que ce pourrait bien être le retour de l'année. Il avait peut-être raison.
un Canadien obtient une bourse pour étudier la magie en Angleterre. Ce n'est pas une lettre d'admission pour Poudlard, mais pour Samuel Gillis Hogan, c'est presque aussi excitant. Passionné par le surnaturel depuis l'enfance, le résident de Wolfville, en Nouvelle-Écosse, a reçu une prestigieuse bourse pour étudier l'histoire de la magie en Angleterre. Lauréat du Rothermore Fellowship pour cette année, M. Gillis Hogan se rendra en septembre à l'université d'Exeter afin d'amorcer un doctorat sur des manuscrits datant de la fin du Moyen-Âge et du début de l'ère moderne qui fournissent la marche à suivre pour invoquer les fées. Cette bourse s'élève à environ 29 000 $ par année pour couvrir les frais de subsistance et ses droits de scolarité sont également payés. Selon le néo-écossais, les spécialistes de la magie ont beaucoup écrit sur l'invocation des démons et des anges, mais très peu sur les sorts permettant d'invoquer les fées. Samuel Gillis Hogan a expliqué avoir été attiré par l'histoire de la magie parce que cette dernière touche à un grand nombre de sujets comme la philosophie, les sciences, la médecine et la religion, des domaines qui n'étaient pas nécessairement séparés dans le passé comme ils le sont aujourd'hui. Il a ajouté qu'étudier la magie permettait de mieux comprendre comment nos ancêtres voyaient le monde.
Se laisser guider par les phares. La plupart des phares du Québec ne guident plus les bateaux, mais certains d'entre eux restent ouverts au public pour une visite, un repas ou une nuitée. La presse vous en présente quatre qui font partie de la route des phares. C'est un texte de Violaine Balivy et Bernard Brault dans la presse. La mission des phares du Québec a bien changé avec les années. Lueur salvatrice des navires d'autrefois, qui le préservait du naufrage, ils servent désormais à attirer les touristes. En 2015, Pêche et Océan Canada a en effet cédé quelques 70 phares à des municipalités, des citoyens ou des organisations sur un total de 948 mis en vente pour 1 $ en 2010. De la quarantaine de phares traditionnels, qui émaillent les rives du Saint-Laurent, une vingtaine se sont depuis regroupées pour former la route des phares. Avant, il y avait des gardiens de phares payés par l'État qui s'occupaient de leur entretien. Maintenant, cela repose souvent sur des bénévoles, des petits OBNL qui font de leur mieux, mais qui ont peu de moyens, explique Jean Cloutier, pilote de navire et expert de l'histoire des phares. Certains sont menacés de disparaître, croit-il, à commencer par les plus petits, situés sur les îles du fleuve Saint-Laurent, d'où l'importance de s'attarder pour admirer les plus beaux et visiter ceux qui sont encore ouverts au public. À Gaspé, à chaque phare sa tragédie. Il y a certainement un peu de vrai dans cette phrase, alors que la décision d'ériger un phare est souvent liée à un naufrage, voire plusieurs, surlignant d'un trait rouge la dangerosité d'un passage. À Cap-des-Rosiers, on comptait un naufrage par année dans la première moitié du XIXe siècle, mais c'est la disparition du Carrix et la mort de 139 des 187 passagers qui y a précipité la construction d'une tour lumineuse, et pas n'importe laquelle, la plus haute du pays, érigée en entre 1853 et 1858, le phare du Cap des Rosiers s'étire vers le ciel en 34 mètres de carreaux de marbre blanc, coiffé d'une lumière dotée d'un prisme de 2 mètres. On peut distinguer la lueur à quelques 40 km à la ronde par temps clair. Sauf que voilà, le phare de Cap des Rosiers est en triste état. Son entretien est limité au strict minimum depuis une trentaine d'années, soit depuis que le dernier gardien l'a quitté, explique Lise Sainte-Croix, l'une des responsables du site historique maritime du phare de Cap des Rosiers. Il faudrait, selon l'organisation, quelques 6 millions de dollars pour le restaurer, une somme considérable pour la municipalité de Gaspé. Cap des Rosiers y a été fusionné. Des démarches ont été entreprises pour qu'il soit repris par Patrimoine Canada. Après avoir tout perdu à Forillon, ça ne nous tente pas de perdre le phare en plus, dit Lise Sainte-Croix. La visite guidée est néanmoins l'une des plus intéressantes de la route des phares, très bien menée et instructive, démystifiant en un peu moins d'une heure la rude vie des gardiens de phare. Et bien sûr, la vue y est exceptionnellement jolie. Le phare donc du Cap des Rosiers est à quelques mètres à l'entrée du parc Forillon et a été construit donc entre 1853 et 1858. C'est $10 pour le visiter. Voilà, c'était le début d'une route des phares.
Après la magie en Grande-Bretagne, restons dans ce pays avec un débat très très sérieux, débat britannique clos au sujet du thé, forcément. Un sondage typiquement britannique prétend mettre fin à un très vieux débat sur le thé. Le lait doit être versé après l'eau, selon une majorité de personnes interrogées. Le sondage réalisé par l'Institut YouGov auprès de 1600 personnes relève que 80% d'entre elles versent l'eau avant le lait sur leur thé. La question, qui peut sembler superficielle aux non-britanniques, fait couler beaucoup d'encre et avait même été abordée dans un essai par le célèbre écrivain britannique George Orwell, intitulé « Une bonne tasse de thé » en 1946, dans lequel il plaidait pour que l'eau soit versée avant le lait. La question a un arrière-plan de classe sociale, l'explique YouGov sur son site. La porcelaine fine était censée mieux résister au choc de l'eau bouillante, dont seuls les moins riches versaient le lait d'abord pour diminuer la température du breuvage. Mais YouGov nous rassure, de nos jours, cette distinction n'existe plus et les classes laborieuses comme les classes moyennes versent l'eau avant le lait.
Des sentiers pour vélo de montagne et fat bike au Mont Orford dans la presse canadienne. En Estrie, le parc national du Mont Orford pourrait fort bien devenir un lieu de rendez-vous pour les amoureux de vélo de montagne et de la bicyclette à pneus surdimensionnés. Cet endroit accueillera prochainement des sentiers réservés exclusivement à ces amateurs de sensations fortes. Le réseau d'une longueur initiale de 10 km sera destiné aux débutants et aux cyclistes de calibre intermédiaire. Si tout se déroule comme prévu, les pistes commenceront à être aménagées dès la fin du mois d'août. Ainsi, les bicyclettes à pneus surdimensionnés, pourront y rouler dès l'hiver prochain. Quant aux vélos de montagne, ils commenceront à y circuler au printemps 2019. La direction du parc national du Mont Orford, Brigitte Marchand, ne cache pas son emballement face à ce projet pilote et elle assure qu'il sera mis en place avec une grande minutie. À son avis, il sera possible de préparer des sentiers un peu de toutes sortes de façons. Cependant, selon Madame Marchand, pour ne pas avoir à intervenir constamment dans les pistes pour les restaurer, il faudra bien faire les choses et éviter coûte que coûte d'improviser. Elle explique qu'il sera notamment primordial d'aménager un excellent système de drainage ainsi que des passerelles solides. Tout va être réalisé en fonction de la pérennité des sentiers. Ils seront donc solides et sécuritaires, assure-t-elle d'un ton confiant.
Si vous envisagez de vous marier à moyen terme, j'ai peut-être un plan pour vous. Imaginez le scénario. Une demande en mariage en orbite autour de la Lune avec comme trame sonore Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. C'est ce que proposera à partir de mars 2022 l'agence parisienne Apotheo Surprise, spécialisée dans l'organisation de demandes en mariage hors normes. Après un entraînement de 12 semaines tout de même, le couple à venir s'envolera de Cap Canaveral en Floride à bord d'une capsule spatiale autonome pour 7 jours dans une intimité on ne peut plus totale. Coût du voyage 193 millions de dollars. Soyez sûr qu'elle dira oui si vous vous embarquez là-dedans. All I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Et nous allons nous envoler vers la Lune avant de vous retrouver la semaine prochaine. Remerciements à Jean-Charles Algan et Yves Olivier pour vos sujets et votre lecture. Remerciements également à Jean-Sébastien Laliberté pour les choix musicaux toujours aussi merveilleux. À la semaine prochaine, bon mardi à tous.
Au revoir.